Eh bien, bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse, ça va? Il n'y a personne. Ça va?
Oui.
Ah, voilà, il y a du monde, c'est bien. C'est bien, gloire à Dieu. On est content d'avoir Lydie aussi parmi nous aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. C'est vendredi le spectacle?
Oui, vendredi après-midi.
À quelle heure?
15h.
15h à Cahors, quelle salle?
Ah non, c'est la salle des fêtes.
C'est ici à Castelnau. Ah, mais c'est formidable. Et c'est entrée libre. Donc, tous ceux qui nous écoutent sur Internet, vous pouvez venir à 15h à Castelnau pour voir Lydie, Navez, son mari. Et il y a d'autres ? C'est juste vous deux. Donc, c'est un solo à deux. Duo. Non, ben, je me réjouis beaucoup de venir vous voir et vous applaudir. Ce sont des artistes formidables. Et on a déjà vu plusieurs choses qu'ils ont produites. Et là, je me réjouis de voir ça. Et je fais de la pub un petit peu, voilà. J'espère que quelques-uns viendront. Hein. Ça, c'est le côté bien. Il y a un autre côté bien, c'est que notre chien, il était aussi en spectacle aujourd'hui, puisqu'il est en ce moment en plein concours. Et paraît-il qu'il est déjà bien classé. Paraît-il, d'après la dresseuse et Stéphane qui ont vu tout ça, il serait le premier. Number one, enfin, on attend le papier officiel d'ici quelques heures, quand on ira chercher ça dans l'après-midi. Voilà, je voulais pas sacrifier le culte, aller là-bas pour ça. C'est bien, on est tout content que notre chien soit le plus beau de la région. On savait qu'il était plus beau que Charles ou que d'autres chiens qu'on connaît. Voilà. C'est bien d'avoir l'avis des officiels. Non, je rigole. Voilà, bon, pour ça, c'est les nouvelles réjouissantes. Il y en a d'autres qui sont un peu moins réjouissantes. C'est au sujet de notre frère Arthur. Arthur Alamand, il ne va pas bien du tout. Il a déclenché une tumeur qui a grossi très rapidement dans son dos. Ils ont dû l'hospitaliser, il perdait toute puissance, toute vitalité. Et ils l'ont mis sous morphine parce qu'en plus, ça faisait terriblement souffrir. Et sa femme m'a appelé hier. Et puis j'ai pu lui parler par, vous savez, avec, comment on appelle ça, webcam, je ne sais pas comment on appelle ça. Et moi j'ai trouvé qu'il avait bonne mine, il est souriant, il est confiant. Il dit, ben voilà, si je dois partir, je sais que je suis prêt. Moi j'aurais bien voulu quand même partir dans l'enlèvement, mais bon, si Dieu décide autrement. Et puis il peut toujours me guérir, c'est un homme qui a toujours la foi. Mais sa femme m'a dit, on lui a dit, arrête de te battre, maintenant c'est nous qui nous battons pour toi. Toi reste tranquille, repose-toi. Et voilà, donc il faut pas l'oublier dans nos prières et dans nos confessions de foi, notre frère Arthur, qu'on aime beaucoup. Et voilà, nous sommes... ça nous a beaucoup bouleversés. Hein. Hier, on était pas trop bien hier avec cette nouvelle-là. Ça fait mal au cœur de voir des gens comme ça. Enfin, ils sont vraiment ancrés dans les choses de Dieu. Hein. Amen. J'aurais promis que lorsque nous prendrons le pain et le vin... Aujourd'hui, nous serons particulièrement en communion avec eux. Que Dieu les bénisse. Prions. Jésus, nous te remercions pour cette journée et te remettons nos vies, ainsi que celles de notre frère Arthur, de sa femme Daniel, de leurs enfants. Te prions, Seigneur, que tout se passe bien pour eux et que ta volonté se fasse en douceur, mais d'une façon belle, noble, et que notre frère soit guéri, soit que tu le reprennes, mais que tout se passe dans la dignité, dans la paix, et que tu éloignes de toute souffrance de sa vie. Nous te remercions, Seigneur Jésus, de nous aider aussi ce matin à écouter ta parole, à bien la comprendre, à saisir les choses qui sont peut-être un petit peu spéciales. Je te demande, Seigneur, de fortifier chacun et chacune. Que ton nom soit béni, mon Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen. Bien, ben, on va lire dans Apocalypse. Au chapitre 1, on est toujours au chapitre 1 de l'Apocalypse. Je ne sais pas si on va arriver au bout. Oh, excusez-moi. Ça, c'est les Pays-Bas. Alors, je sais ce que c'est. Vous savez ce que c'est, les Pays-Bas ? Hein ? On sait très bien ce que c'est. C'est des escrocs qui veulent nous acheter le château en nous vendant, vous savez, en faisant des dessous de table, des machins comme ça. On en a à peu près... un tous les mois qui nous téléphone des Pays-Bas pour ça. Donc je réponds même pas. On n'est pas des gens malhonnêtes, on ne veut pas te faire de dessous de table. On préfère pas le vendre que d'être malhonnête. Amen. Amen. Mais on va le vendre d'une façon honnête. Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, donc quand il vit Jésus, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa alors sa main droite sur moi en disant, n'aie pas peur, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues dans ma main droite et les sept chandeliers d'or. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui doit arriver et ce qui doit arriver ensuite. Excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Vendredi, je vous parlais du choc de l'épée et du choc du fléau. Pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à l'écouter cette prédication. Et ce matin, nous voilà devant un autre choc, le choc de l'extase. L'extase, c'est une violence faite par Dieu à l'homme. C'est quelque chose de très rare, mais quand ça arrive, c'est très fort. Et là, Jean est tombé comme mort devant Jésus, comme mort. Il ne s'agit pas là de ce simulacre qu'on peut voir de nos jours dans certains milieux chrétiens dits charismatique. Là, dans ce domaine-là, il s'agirait plutôt, à mon avis, c'est mon avis, hein, mais je crois qu'il est juste, je crois qu'il s'agit plutôt d'une forme d'hypnose qui est le fruit d'une manipulation dans le marécage du psychisme humain. Vous savez, des manipulations qui peuvent être faites dans les foules et tout, avec des gens plus ou moins conditionnés, et puis on arrive à faire avec l'hypnose des choses très bizarres. Et là, je crois que ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Maintenant que certains tombent sous la puissance du Saint-Esprit, je veux bien, mais je ne vois pas vraiment à quoi ça sert. En tout cas, là, Jésus, c'était tout à fait autre chose. Jésus se trouvait réellement devant Jean. Jean avait connu Jésus pendant des années et il le voit d'une façon très différente, mais il le reconnaît, il sait quand même que c'est lui. Et puis Jésus se présente, il dit, c'est moi, hein, et Jean est choqué par cette apparence presque, on pourrait dire, monstrueuse. Et puis il est aussi choqué par la puissance qui se dégage de cet être. Parce que vous savez que tout être, tout ce qui existe, même les plantes, les objets, nous, tout ça, eh bien, tout dégage une puissance, une certaine puissance. Les gens parlent à tort de magnétisme, on dit, il y a des gens qui vont chez les magnétiseurs, vous savez, qui font des tours avec les mains, comme ça, soi-disant c'est le magnétisme. Le magnétisme ne fait rien du tout. Le magnétisme, c'est tellement faible dans le corps humain que ça fait pas grand-chose. La réalité démontrée scientifiquement, c'est que c'est pas tellement le magnétisme que nous produisons qui a des vertus thérapeutiques, parce que quand même ces magnétiseurs ont certains résultats, même certains médecins, certains hôpitaux envoient, n'est-ce pas, des gens qui ont des brûlures ou des cicatrices qui n'arrivent pas à se refermer correctement, ils les envoient chez ces magnétiseurs, mais en fait c'est pas le magnétisme, c'est pas la qui agit, la puissance magnétique d'une personne en santé, elle peut être mesurable avec des appareils. Ce magnétisme peut être mesuré avec des appareils. D'ailleurs, je vais m'en acheter un. Ce magnétisme se mesure en millième de Gauss. Voilà, ça c'est les termes. Vous irez regarder sur vos dictionnaires ce que ça signifie. Et, c'est-à-dire, il y a 0,002 Gauss. C'est-à-dire, presque rien. Quand vous prenez un aimant normal, il y a déjà plus. Donc, ce qui se dégage, même des magnétiseurs, hein, c'est pas extraordinaire. Par contre, l'électricité est aussi mesurable, et par contre, elle se mesure pas en Gauss, mais en volts. Vous allez dire, ouais, mais tu vas gicler où là? Attendez, j'y viens, je m'éloigne un petit peu, mais je sais où je vais. On mesure chez une personne en santé entre 2 et 5 volts qui émanent des mains. Ça émane de la tête, ça émane du torse, des partout, des jambes, de partout, mais c'est surtout les mains, les extrémités des mains. Et une personne peut canaliser, elle peut amplifier, elle peut orienter cette force qui est naturelle, qui n'a rien à voir avec, ni avec le Saint-Esprit, ni avec le diable. C'est simplement une force naturelle, quelque chose qui est dans notre nature et qui est dans toute la nature. Les plantes aussi émettent, et puis elles ont des influences les unes sur les autres. Savez-vous que les plantes ont des influences les unes sur les autres ? Elles peuvent se vivifier ou se faire du mal ou se faire du bien. C'est étonnant. Et nous aussi. Et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte, il y a des gens qui sont, quand on est avec eux, c'est toxique. Hein. Vaut mieux voilà, s'éloigner un petit peu. Parce qu'ils sont, il y a quelque chose qui... Alors, une personne peut canaliser, amplifier et orienter cette force avec plus ou moins d'intensité. Par exemple, si vous voulez avoir plus de force, pas magnétique, mais électrique, magnétique aussi, remarquez, puisque c'est l'électromagnétisme en fait, allez marcher un peu dans le gazon, pieds nus. On est constamment coupé des puissances qui sont dans la nature, sur la Terre, par nos chaussures en caoutchouc, et ça nous coupe, ça nous isole. Et on n'est pas ni renouvelé, ni débarrasser des mauvaises ondes, on pourrait dire électromagnétiques, qu'on fournit ou qu'on nous envoie. C'est des choses qu'il faut savoir. Des fois, les gens sont étonnés. Ils disent, mais Michel, tu prêches l'évangile ou tu prêches quoi ? Je prêche l'évangile. Mais je profite du fait de prêcher l'évangile pour dire combien Dieu a mis de belles choses sur cette terre et combien nous les ignorons. Et nous écoutons des vieux gringos qui viennent nous raconter des histoires en disant c'est diabolique. Ça n'est pas diabolique, c'est dans la nature. La Terre tient grâce à l'électromagnétisme dans sa position. Tout tient comme ça. Tout tient comme ça. Et nous aussi, on a une part. Donc, il émane, il y a quelque chose qui émane de nous. Chacun d'entre nous, qu'il le veuille ou non, qu'il y croit ou pas, émet un champ électromagnétique en continu, sans arrêt, plus ou moins fort. Et si par exemple vous aimez les malades, et vous pouvez mettre vos mains sur les malades, Jésus dit faites-le en mon nom. C'est mieux parce que c'est la foi et c'est en communion avec Jésus que nous allons apporter la guérison. Maintenant on peut très bien le faire sans dire au nom de Jésus ni rien du tout, mais simplement parce que nous avons un pouvoir thérapeutique. Vous n'allez pas rendre la vue à un aveugle par votre force électromagnétique, ça c'est pas possible. Mais des petites choses, ou même des choses qui sont embêtantes, comme des douleurs, des choses, voilà, on peut atténuer ou éliminer certains maux, certaines choses qui ne sont pas bonnes. Mais ça n'a rien à voir avec le don de guérison et avec la manifestation de ce que Jésus nous envoie pratiquer, c'est-à-dire l'imposition des mains en son nom, parce que là c'est nous qui guérissons, mais de sa part, au nom de Jésus, et sa puissance passe au travers de nous. Vous avez bien compris. On peut guérir de toutes sortes de manières, par l'électromagnétisme, ça c'est sûr. C'est prouvé. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais c'est prouvé. On peut guérir par les médicaments, on peut guérir par les placebos, c'est ce que c'est que les placebos. On peut guérir par la chirurgie, on peut guérir par... Il y a toutes sortes de médecines, en faisant attention à ce qu'on mange... pas respirer n'importe quel air, par exemple la fumée, c'est pas tellement bon pour la santé, etc., etc., etc. Et on a aussi la puissance de la guérison par la foi en Jésus-Christ. On n'est pas des fanatiques, on n'est pas contre ni la médecine, ni contre toutes les choses qui sont dans la nature. Simplement, il faut les connaître, on ne peut pas agir n'importe comment, en faisant n'importe quoi. Cela... Ce pouvoir thérapeutique de notre électromagnétisme naturel, c'est normal, on l'a tous, c'est normal. Il y a rien de spirituel là-dedans, c'est normal, on est constitué comme ça. Bon, je reviens maintenant à ma prédication, je disais ça pour vous faire comprendre, pour faire prendre conscience pourquoi Jean est tombé comme mort en présence de Jésus, qui était lui revêtu de son corps d'esprit. Qui émane, il y a quelque chose qui émane aussi de ce corps d'esprit, c'est évident. Le contact entre l'humain à 5 volts et Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, est quasi insupportable. Notre frère Osborne, qui a vu Jésus dans sa chambre, il dit « Je suis tombé comme mort, et je ne pouvais même pas bouger un petit doigt, Je l'entendais, je le voyais, mais je pleurais alors que je n'avais aucune raison de pleurer. Je sentais mes larmes qui coulaient. Mais il dit, c'est insupportable de le voir tel qu'il est. Alors, très souvent, il se montre d'une façon un peu atténuée, un peu comme un être humain. Là, Jean n'a pas vu un être humain, hein, avec une épée qui sort de la bouche, des pieds qui ressemblent à des reins ardents, etc. Non, ça ne ressemblait pas du tout à un être humain. Mais de temps en temps, Jésus, ou alors il envoyait un ange, et puis on croit que c'est Jésus, et puis voilà, parce qu'on mélange tout, parce qu'on sait pas, on connaît pas bien les choses du monde de l'esprit. Mais l'homme, la Bible nous dit, c'est simple, l'homme ne peut pas voir Dieu et vivre. Ceux qui l'ont vu, c'est vraiment très très rare. Encore Moïse, il l'a vu de dos, etc. Bon, en tout cas, lui, il tombe comme mort, c'est-à-dire qu'il perd conscience, il perd conscience. Et c'est là que la puissance de résurrection qui est en Jésus agit. Et c'est que Jésus disait toujours, ne craignez pas. Un jour, il a dit, ne craignez pas, levons-nous et partons. Et bon, alors là, c'était juste avant, il venait de leur annoncer sa mort. Et ils étaient complètement abasourdis. Les pauvres disciples, ils étaient assis, ils étaient hébétés. D'entendre une chose pareille, Jésus disait, ne craignez pas, levez-vous, partons. Et puis voilà. Donc, ils avaient l'habitude d'entendre « ne craignez pas ». Et là, alors que la petite personne de Jean à 5 volts est comme morte devant Jésus, Jésus pose sa main droite sur lui. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il avait dans sa main droite? Il avait les 7 étoiles et les 7 chandeliers, au milieu des 7 chandeliers, les 7 esprits. Et il dit « ne crains point ». Il dit donc les mêmes paroles quand Jean se trouve dans l'extase que quand simplement il était sur la terre. Et vous savez qu'un enfant de Dieu, il reconnaît toujours la voix du bon berger, même s'il prend une autre apparence. Rappelez-vous que sur le chemin d'Emmaüs, Jésus avait pris une apparence. Devant Marie, au tombeau, il avait toujours son apparence humaine. Il dit, ne me touche pas parce que je ne suis pas monté au Père. Ensuite, dans la chambre haute, il dit, touche-moi, c'est-à-dire qu'il était monté au Père. Mais il a repris son apparence humaine pour ne pas leur faire peur. À mon avis, c'est des choses comme ça, il faut comprendre. Et la main droite de Jésus, elle est pleine de toute cette connaissance. Et quand il lui touche, quand il le touche, en lui disant ne crains pas, eh bien, cette connaissance va être révélée à Jean. Et au travers de Jean, elle vient jusqu'à nous. Jean entre dans la sérénité, mais aussi la puissance de l'extase. Parce que mes frères et sœurs, il peut y avoir de vraies visions qui viennent de Dieu. Les vraies visions qui viennent de Dieu, elles créent en nous un apaisement. C'est pas des choses qui sont inquiétantes, qui font peur dans le sens... ça peut surprendre, Jean a été surpris. Mais les gens qui voient des choses, puis qui disent « c'est quoi ?» Je connais une dame qui voit des orbes, et puis elle partout, elle dit « c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites-moi tout. » Si ça venait de Dieu, elle n'y aurait pas aucun problème, elle serait dans la sérénité. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, à mon avis, elle ne voit rien du tout, c'est juste pour son intéressante qu'elle raconte ça. Mais voilà, c'est comme ça, ça c'est la nature humaine, que voulez-vous. En tout cas, quelqu'un qui a une véritable vision de Dieu, même si au début il est un peu choqué, Dieu le calme, et puis... ça crée un apaisement et puis un abandon total à Dieu. Ne crains pas. Au verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier. » L'immortalité, en fait, il est tout un. Il est tout un. Il dit aussi, quand il dit « Je suis le premier et le dernier », étant donné qu'il est tout un, il est en train de lui dire « Je suis ton commencement, je suis ta fin. Je suis le vivant. » Je suis le devenir, je suis le chemin qui te ramène à ta vraie nature. Voilà ce qu'il est en train de dire à Jean. C'est pas, faut pas prendre les mots et puis s'arrêter aux mots. Faut voir la signification des mots et puis développer, n'est-ce pas, la pensée que Jésus voulait donner à notre frère Jean. Je suis le chemin qui te ramène à ta vraie nature. Pour le moment, tu n'es pas dans la bonne condition. Tu es enveloppé de chair, tu es dans la limitation. C'est pas la joie, hein. Parce que il faut se souvenir que le début est égal à la fin, parce qu'il n'y a pas de changement en Dieu. Mais que le seul changement qu'il y aura, c'est ce que Dieu a voulu d'ailleurs en nous envoyant sur cette terre, c'est que nous progressions. Donc nous serons les mêmes, mais en ayant progressé. La plénitude de la gloire que tu as acquise sur la terre sera multipliée encore lorsque tu paraîtras devant Dieu. Ce sera ça ta récompense. Alors, j'étais mort, c'est-à-dire il était mort. Il était mort pour Jean. Il était mort pour tout le monde. Il était mort, voilà. Il était mort à nos yeux. Bon, Jean, il l'avait vu ressuscité, mais bon, quand même, il n'était plus là, hein, inexistant. Hein, comme quand on dit, voilà, le frère Intel est mort, mais bon, il est vivant. Mais oui, d'accord, mais on ne le voit plus. Il n'est plus là, inexistant, existant seulement aux yeux des siens, mais dans la foi, pas dans la... pas dans la réalité, dans notre dimension. Et donc, étant mort, je suis, veut dire aussi, je suis non révélé. Étant mort, je ne suis pas vraiment connu, parce que qui se souvient des morts, hein? Surtout au bout de 2000 ans, qui se souviendrait de lui s'il ne s'était pas manifesté avec puissance comme ça à Jean, lui demandant d'écrire ces choses. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Ça veut dire que je suis l'éternité, et toi, Jean, ben, tu en fais partie de cette éternité. Tu fais partie de cela. Tu es un avec moi, tu es dedans. Pas toi tout seul, hein, mais avec tous ceux qui me suivent, tous les miens. Et il dit, lui montre, il dit, j'ai toutes les clés. La mort ne pourra pas venir te prendre, j'ai les clés. Ça me rappelle une chanson qui dit, ne crains rien, la Rolls s'est bien garée, j'ai les clés. J'ai les clés. Vous n'êtes pas temporel, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas temporel. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes des immortels. Nous ne sommes pas ce pauvre corps dans lequel se manifestent ces fameux 2 ou 5 volts. On n'est pas que ça. Hein? On n'est pas que ça. On est venu pour un temps. Il faut vraiment se mettre ça dans le crâne et dans le cœur, hein, parce que sinon, oh, c'est encore lundi. Puis ça recommence tout le temps. Ça peut devenir lassant au début quand on est jeune, c'est super. Mais arrivé à 68 ans, on se dit, oh, commence à faire long un peu. Mais heureusement, nous avons une espérance. Hein? Nous avons une espérance, c'est que ça va. Ça, c'est juste une espèce de caricature de ce qu'on est réellement. On n'est pas vraiment ça. Et nous sommes une partie de Dieu. Et là, ça, c'est quelque chose d'immense, d'infini, que l'on ne peut même pas vraiment saisir complètement. Absolument pas. Ça, on ne peut pas. Vous êtes ici, mais. Vous êtes en train de remplir l'univers, vous avez à remplir l'infini. Voilà pourquoi vous êtes ici dans les épreuves et les difficultés. Vous êtes là parce que vous allez jouir de l'éternité et de tous les bienfaits de cette non-limitation, à réjouir l'éternel par votre démarche ardente. Déjà maintenant, vous réjouissez l'éternel par votre démarche ardente, mais encore après, par la suite. Lorsque vous passerez dans l'autre monde, il y aura toujours une démarche ardente, c'est-à-dire une progression, et nous allons construire des nouveaux mondes, nous allons gérer des nouvelles situations, ça va être absolument passionnant, et comme il n'y aura plus le diable, comme il n'y aura plus la chair pour nous embêter, bon débarras, hein ? Ça sera super, ça sera magnifique. En vérité, c'est notre seule joie ici-bas, c'est pas la vente du château. Hein, notre seule joie ici, c'est l'ardeur de notre adoration, l'ardeur que nous mettons dans notre progression, l'ardeur que nous mettons à nous purifier, l'ardeur que nous mettons à nous améliorer constamment. Et puis, les histoires de victoire sur ceci, victoire sur cela, ça c'est des petites cerises sur le gâteau, mais tout ça, ça passe, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est notre progression, parce que lorsque nous passerons de l'autre côté, plus nous aurons progressé, plus la multiplication de notre gloire sera importante, et nous en jouirons, et nous en ferons jouir les nouveaux mondes. Ce qui permet que notre joie ne soit pas troublée, c'est que, étant touché par sa main droite, celle où se trouvent les 7 étoiles, et ayant entendu ce « ne crains pas », nous savons que nous avons la connaissance que seul Jésus nous juge. Parce que quand ce qui est arrivé à Jean, c'est aussi à nous, puisque nous sommes un, vous saisissez ? Donc, nous savons que Jésus est notre seul juge. L'apôtre Paul le savait aussi, il en avait eu la révélation. Il dit, mais peu importe ce que vous pensez, même moi-même je ne me juge pas. Vous me jugez, mais je n'en tiens absolument pas compte. Ce qui est important, c'est que ce soit Dieu qui me juge, c'est pas ce que vous pensez, vos idées, vos machins et tout. Vous pouvez faire une petite idée. Bon, lui, il est plutôt mollasson, lui, il est plutôt vif, lui, il est plutôt un caractère soupe au lait, lui, il est... Ça, c'est des jugements, bon, mais les jugements, quand je parle de jugement avec condamnation. Ceux qui, enfin, peu importe, il n'y a que Jésus. Jésus seul, lui seul, est notre juge. Lui qui nous aime plus que tout, et lui qui nous aime plus que tous. Moi, je vous adore, hein, mais à côté de l'amour que Jésus a pour vous, moi, c'est de la gnognotte, hein, mon amour pour vous. Eh ben, c'est la même chose pour chacun d'entre nous. Hier, je parlais avec un frère, et puis je disais, notre souffrance, c'est de ne pas être... rassemblés, on est dans 5 maisons différentes, on aimerait bien avoir de nouveau une maison où nous sommes tous ensemble, parce que c'est ça notre vocation, c'est à ça que Dieu nous a appelés, et pour le moment nous sommes en exil, c'est normal, on sait pourquoi, et il n'y a pas de problème, mais c'est ce que nous aimons le plus, c'est vivre ensemble, parce qu'on s'aime, parce que voilà, c'est de l'amour que nous avons les uns pour les autres, et il disait oui, je comprends bien, et voilà, mais c'est bien. Alors, quoi ? T'inquiéter pour les progrès que tu as à faire, ça ne sert même à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout, s'inquiéter pour les progrès qu'on a à faire. Dieu tient tout dans sa main, c'est lui qui arrange les choses, qui fait que, il nous donne le vouloir, le faire, et puis certains, bon, ben, ils vont faire des progrès qui vont être évidents aux yeux de tout le monde, puis d'autres vont faire des progrès qui ne sont évidents qu'aux yeux de Jésus, et puis et ils sont peut-être plus importants que ceux qu'on voit. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce qu'on ne voit pas, hein, c'était dans le livre de Saint-Exupéry, les choses qui ont le plus de valeur, c'est celles qu'on ne voit pas. Alors voilà, donc ne jugez pas d'après ce que vous voyez, d'après ce que vous entendez, c'est Jésus qui juge. Alors souviens-toi que Jésus, se révélant comme Dieu tout-puissant, comme celui qui a toutes les clés, il est notre paix, il est notre joie, et les choses ne viennent que par lui, que par lui. On peut faire tout ce qu'on veut, de toute façon, c'est lui qui va faire. Il suffit simplement que nous acceptions cette idée, que nous soyons humbles. Et rien ne peut ternir cette paix, cette joie, quand on a cette assurance qu'il tient vraiment les choses dans ses mains, qu'il est tout puissant, qu'il n'y a aucune autre puissance. Il n'y a rien qui empêche. Il n'y a rien, c'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui fait, il fait comme il veut, il sait nous donner la paix dont nous avons besoin, c'est à nous de savoir l'apprendre. L'apprendre, nous avons à apprendre à l'apprendre, cette paix. Et c'est pourquoi nous passons des épreuves et puis si on la passe mal, bon, on repasse la même quelques temps après, sous une forme un peu différente, jusqu'à ce qu'on ait appris que, oui, c'est Dieu qui tient tout dans sa main, mais pourquoi je me fais du souci ? Mais je suis complètement idiote. D'accord ? Quand Jésus dit à Jean, j'étais mort, bien sûr, il parle de la croix, mais il parle aussi d'autre chose. Il lui dit là, j'étais comme quelqu'un de mort, tu ne me comprenais pas. Tu ne me comprenais pas. En fait, tu ne me connaissais pas. Même quand j'étais vivant avec toi, c'était comme si j'étais mort. Ce que tu voyais, ce que tu jugeais de moi, ce que tu comprenais de moi, mais c'était tellement rien à côté de ce que je suis réellement. Alors j'étais mort, mais voilà, je suis vivant. Maintenant, regarde comment je suis, regarde. Et c'est vrai, mes frères et sœurs. Les disciples de Jésus, à l'époque, quand ils marchaient avec Jésus, ils étaient à des lieues d'avoir compris Jésus le Messie. À des lieux, à des kilomètres. Quand on voit leurs réflexions, des fois Jésus dit des choses, il se lance dans des phrases extraordinaires. D'un coup, t'as un petit lourdeau de disciples qui arrive et qui pose une question. Mais bête ! Vous n'avez pas remarqué en lisant la Bible ? Et il coupe Jésus, puis Jésus, après, on dirait que bon, il était interrompu, puis il ne reprend pas son histoire, il continue pas. Mais s'ils avaient pu se taire, ces grosses nouilles, non, ils sont comme nous. Et donc ça m'enlève mes complexes, quoi. Je veux dire, ils n'étaient pas plus fut que moi. Donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Il ne faut pas se rendre malade avec ça. Dieu fait bien les choses, il sait, il comprend, il connaît. C'est ça qu'il faut que nous sachions. Et quand Jésus les a quittés, eh bien, ils étaient désemparés. Ils ont même pensé à reprendre leur boulot, leur travail. Ben, il fallait bien bouffer. Hein. Ils n'ont pas réalisé
Pourtant, Jésus leur avait dit, si je vous envoie, comme le Père m'a envoyé, gna gna, tout ça, je n'ai rien compris du tout. C'est pourquoi il leur avait dit, quand je serai parti, je vous enverrai l'Esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Alors là, sur Patmos, je fais juste une petite parenthèse pour vous dire, ce n'était pas la terre d'Israël. Là, à Patmos, la révélation est donnée au peuple de Jésus qui en est qu'au début de son histoire, qu'au début de son voyage. Et Jean lui-même n'a pas compris tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a vu. Mais nous, maintenant, nous pouvons, en lisant les Écritures de Jean, voir qu'il était en train de parler du 2e siècle, du 4e siècle, du 6e siècle, du 8e siècle. Il ne savait pas, Jean, il écrivait simplement. Mais nous, maintenant, qui sommes arrivés au bout du voyage, notre vision elle est encore plus claire que celle de Jean. Mais encore faut-il se donner la peine de lire, d'étudier, de prendre du temps pour ces choses-là, d'écouter les prédications, d'apprendre. Regardez Jean. Il est là devant Jésus. Jésus lui dit, j'ai les clés. J'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Alors ce que nous appelons la mort, c'est plus pour nous. C'est pas pour nous. Si on dit le frère un tel est mort, c'est faux. On ne devrait pas dire ça. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra pas. Il n'est pas mort. Ce n'est pas la mort qui vient chercher les chrétiens. La mort vient chercher les autres, oui. Là, ils se rendent compte que déjà là, ils voient qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils disent, ah bon, je pensais qu'après la mort, il n'y avait plus rien. Là, tout d'un coup, ils voient un être qui arrive. Et croyez-moi, ce n'est pas jojo, hein, la mort. Mais, pour les chrétiens, il n'y a pas ça. C'est les anges qui viennent nous chercher. C'est tout autre chose. Nous naissons à autre chose, à une autre vie. Nous nous trouvons encore sur le chemin, toujours en Jésus, qui est toujours le chemin. Et nous sommes toujours en ascension vers quoi? Vers la connaissance. Parce que la connaissance ne va pas nous être donnée le tic d'un coup de baguette magique. Non, la connaissance, ça va, c'est quelque chose qui va s'amplifier. Et nous allons en arriver au point où nous allons être connus comme nous sommes connus par lui. Nous le connaîtrons comme il nous connaît, dans sa souveraineté de Seigneur. Pour le moment, on a le livre de la Révélation, on a la prière, on a la méditation, on a la contemplation, pour certains, l'extase, c'est quand même assez rare, mais bon, il y en a, hein. Et on a aussi un peu de temps pour nous parfaire, afin de paraître devant Jésus, pas seulement avec nos 5 volts, hein, pitié. Pour paraître devant Jésus tel qu'il est lui et non tel qu'il est dans sa chair, tel qu'il était dans sa chair. Nous-mêmes, nous serons différents et nous paraîtrons devant un être différent. Nous saurons que c'est Jésus, Jésus saura que c'est nous, mais les choses seront très différentes. Et il faut déjà maintenant qu'on s'habitue. Il faut déjà maintenant qu'on prenne en compte toutes ces choses-là. Comment ? Ben déjà, premièrement, en obéissant simplement à ce qui est dit dans les Écritures, en faisant ce qui est dit dans les Écritures, en s'exerçant. La Bible dit « exerce le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains ». Si vous n'exercez pas, si vous ne faites pas, quelqu'un qui fait un exercice pour arriver à un résultat, les musiciens le savent, les sportifs le savent, il faut répéter, 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 jusqu'à ce que ça devienne comme une seconde nature. Sinon, ben, vous ne risquez pas de voir de résultats. Moi, je me rappelle d'un prédicateur qui m'avait dit « Moi, je n'oserais jamais imposer les mains à un mort parce que ça me fait peur. Alors, je m'exerce sur les oiseaux morts. Si je vois un petit oiseau mort, je m'exerce à les ressusciter. » Bon, il n'avait jamais réussi. Mais bon, c'était une idée. Il s'exerçait, vous voyez. Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, qui a mal, dites-lui « Je vais prier pour vous. » Et puis, ne dites pas « Je vais prier pour vous ce soir à la maison. » Non, priez. Et puis, si la personne dit « Merci, c'est gentil. Ben » vous prenez sa main. Puis, c'est une imposition des mains. Puis, vous dites « Seigneur, bénis cette personne. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. » Et dans votre tête, vous pensez « Voilà, je mets toute ma puissance humaine, mes 5 volts, Mais je les mets, et puis je mets le nom de Jésus, puis je mets la puissance du Saint-Esprit qui est en moi aussi. Tout ce que j'ai, je lui donne au nom de Jésus. Ce que j'ai, je te le donne. Amen. Vous comprenez? Mais exercez, si vous ne faites pas, il risque pas de vous arriver des choses. Moi, j'ai commencé un jour, puis j'ai vu que ça marchait, alors j'ai continué. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est obéir, voilà, si Jésus dit de le faire, bon, on va le faire. Puis si vous avez des échecs, mais c'est pas grave. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez des échecs, par exemple, avec des malades, quand vous priez pour un malade, si un malade, ça va pas mieux après, il sera toujours reconnaissant quand même du fait que vous vous êtes occupé de lui ou d'elle, même s'il n'est pas guéri. Il pensera avoir une personne qui m'aime, qui a prié pour moi, c'est gentil. Vous voyez, personne ne vous en voudra si vous n'êtes pas guéri. Personne. Je vous garantis, moi, ça fait quoi, depuis 68 que je prie pour les malades, j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit « Ouais, jamais. » Non, au contraire, les gens sont reconnaissants. Amen. Que Dieu soit béni. Donc n'ayez pas peur de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'imposer les mains comme ça. Non, vous prenez simplement la main de la personne, ou si c'est une personne un peu plus intime, que vous connaissez mieux, vous pouvez poser votre main autour de son cou, autour de son épaule, comme ça, voilà. Mais faites-le, exercez le don que vous avez reçu. Quel don? Ben, votre don naturel, vos petits 5 volts. Et puis aussi la puissance du Saint-Esprit qui est en vous, le nom de Jésus que vous prononcez dans la prière, et les démons vont être obligés de dégager. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Surtout, marchez dans la progression. C'est notre seule joie, mes frères et sœurs. C'est notre seule joie. Je suis sûr que nos musiciens sont contents de jouer. C'est une joie de jouer. On a toutes sortes de joies. Et on se donne des dates où on va faire ceci, où on va faire cela. Par exemple, vendredi, on va aller regarder la pièce de Lydie. Ça va être génial. Mais voilà, c'est des joies. Mais c'est des joies d'un moment. C'est des joies d'un moment, mais quand vous êtes dans l'obéissance à Jésus et que vous progressez, c'est quelque chose, c'est ça la joie que Jésus donne. C'est quelque chose c'est même difficile à expliquer parce que ça ne ressemble pas vraiment à la joie qu'on a quand on joue un bon morceau ou quand on joue une bonne pièce ou quand on va voir un beau spectacle. C'est quelque chose qui... Ces petites joies sont des pauvres joies, c'est comme nos 5 volts, si vous voulez. Mais ça, ajouté à ça, il faut que nous soyons réels, tels que nous sommes. Soyez d'accord avec le fait que vous n'êtes qu'une personne humaine avec 5 volts pour le moment, mais que Jésus vit en vous, il l'a promis. Alors faites ce qu'il dit et vous verrez qu'il fera, lui, derrière, ce qu'il a promis de faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus, je te prie que mes frères et sœurs soient vraiment conscients et qu'ils ne cherchent pas des expériences d'extase ou des trucs comme ça, mais qu'ils cherchent simplement à être de bons chrétiens qui obéissent, qui font ce qu'ils trouvent à faire dans la parole et qu'ils le fassent avec sérieux, avec gentillesse autour d'eux. Merci Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Bonne fin de journée. Et il fait beau aujourd'hui. On a découvert la piscine ce matin avec Michou. On va y aller après manger. Au revoir.